Tous les jours, les experts se donnent rendez-vous dans l'Afterwork.
Et on est ensemble dans l'Afterwork, il est 16h37 et aujourd'hui dans notre chronique Histoire locale, bien sûr, on est mercredi, nous a rejoint Olivier, tu es là?
Voilà, je suis là. Bonjour à toutes et à tous.
Oui, tu avais un petit peu de retard là, Olivier.
Excusez-moi, j'ai... je sors de cours. Hein.
Oui, c'est vrai, un petit peu de retard. Aujourd'hui, Olivier, notre expert historien, de quoi va-t-on parler?
Alors aujourd'hui, on va parler Première Guerre mondiale, mais bien plus que cette guerre, on va parler des hommes et des femmes qui ont fait cette Première Guerre.
Alors tout d'abord, on peut nous intéresser à la population au temps de la guerre?
Oui. Vous savez, il y a deux manières d'aborder la Première Guerre mondiale, comme tout autre conflit. La première manière, c'est on donne des dates, on fait un catalogue, on donne des chiffres, et puis voilà. Ça parle pas à grand monde. La deuxième manière, c'est de prendre directement les histoires individuelles, si j'ose dire, les histoires individuelles, ces parcours que ces gens ont vécu dans cette guerre totale. On parle de guerre totale parce que des femmes, des enfants, des vieillards, de l'argent a circulé pour cette guerre. C'est différent de la vision qu'on a très froide, très distante d'une guerre. Je rappelle aussi que on peut parler de guerre totale aussi parce qu'elle est mondiale. Tous les pays sont impliqués. Mais bien plus que les pays, c'est les populations à l'intérieur qui sont impliquées. On parle en France, par exemple, de 600 000 veuves, d'environ 1 million d'orphelins, dans une France qui, pour que vous puissiez comparer, comportait à l'époque 30 millions d'habitants. Au total, ça sera 9 millions de morts, dont 1,5 million de Français. Et c'est à ce moment-là aussi que fleurissent les premiers monuments aux morts dans toute la France. Qu'il s'agisse de la simple plaque au mur, sur le mur d'une église, comme on peut le voir par exemple dans le petit village de Saint-Marc, à côté de Bayon, ou bien du poilu triomphant, qui est peint dans son uniforme bleu horizon. Vous savez, il y a un temps où je sillonnais les routes, dans le secteur de Lunéville notamment, pour photographier les monuments aux morts, parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière, il y a vraiment une diversité de monuments aux morts.
Surtout dans le secteur de Lunéville en particulier?
Oui, oui, oui. J'ai des attaches dans le secteur de Lunéville, donc j'ai eu l'occasion de sillonner un bon nombre de fois ces routes-là. Et je dois avouer que j'ai eu une belle surprise il y a quelques années, il y a environ 4 ans. C'est dans le Lunévillois, plus précisément dans le village de Moyen, que j'ai vu pour la première fois la statue d'un poilu. Donc un poilu, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale, un poilu peint totalement en couleur, et c'était extrêmement impressionnant.
Donc ça se trouve où, un Moyen?
Alors Moyen...
donc, c'est près de Gerbervillers.
Voilà, c'est ça, ouais. Moyen, Vatimesnil, etc. Tous ces endroits-là, ce sont de beaux petits villages.
Au milieu du village, du coup, cette statue?
Alors non, c'est d'ailleurs ça sa spécificité, c'est qu'elle est au milieu du cimetière.
Du cimetière,
ouais,
d'accord.
Ouais. Donc c'est très étonnant et c'est très beau d'une certaine manière.
Très bien. Du coup, tu nous en parles encore un peu plus
oui.
Pendant la guerre.
Juste deux mots là-dessus encore avant d'aborder un autre aspect. Il faut bien s'imaginer qu'on parle d'histoire individuelle, avec notamment la réquisition de tous les hommes valides, qui d'ailleurs ne seront plus valides très longtemps. Hein. Si on se met dans le contexte, il faut s'imaginer ces bruits de bataille, le fait que les soldats quittent les tranchées et montent au son du sifflet, comme on disait, dans le brouillard. C'est aussi le fait qu'on boit pour oublier, hein, des rations d'alcool étaient distribuées aux soldats pour qu'ils puissent sortir des tranchées, ils étaient terrorisés. Et enfin, c'est l'artisanat des tranchées dont nous avons tous un exemple sans doute chez nous. C'est les fameuses bouillottes avec des douilles d'obus ou bien des porte-plumes avec des douilles de balles de petit calibre, etc. etc.
Non, j'ai pas ça chez moi.
Mais dans Lunévillois, on en a beaucoup.
D'accord, très bien. Du coup, je crois qu'il y a une sorte de un poème,
oui,
que tu voudrais nous réciter.
Peut-être pas vous le réciter, mais lorsque j'ai préparé cette chronique avec toi, Cyrielle, je me suis penché sur cette figure des soldats qui, lorsqu'ils revenaient au sein de la population civile, ben, on ne comprenait pas forcément ce qu'ils avaient vécu. Et il y a un poème qui est ressorti de tout ça, c'est un poème qui me plaît beaucoup, qui s'appelle « Si je mourais là-bas ». Et c'est un poème que Guillaume Apollinaire écrit à la femme qu'il aime, qui s'appelle Lou. Et il y a notamment quelques vers qui m'interpellent, je vous les lis. Il commence en disant « Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup ma bien-aimée, et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs.
C'est du bel Apollinaire, ça.
Voilà, et il y a l'idée vraiment que les soldats qui meurent sont oubliés aussi, hein, et c'est très très fort, ça.
Ensuite, pour continuer la chronique sur la Première Guerre mondiale, quelles sont les causes de cette Première Guerre ?
Oui, venons-en quand même un petit peu, il faut bien en passer par là, à cette espèce de jeu d'alliance qui se trame. Alors, lorsque j'ai préparé cette émission, je suis tombé sur un ouvrage tout à fait sympathique, dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle « Le grand bêtisier de l'histoire de France ». Alors, vous avouerez que c'est pas commun comme nom de manuel d'histoire, surtout dans la bouche d'un prof d'histoire.
Ça fait pas très sérieux.
Voilà, mais alors c'est un ouvrage quand même tout à fait sérieux, avec un humour un peu corrosif mais quand même très intéressant, qui a été écrit par monsieur Dagneau, qui est également professeur agrégé d'histoire entre autres, et un personnage qui contribue souvent au Canard enchaîné. Et lorsqu'il parle des causes et des dommages de la guerre, il explique, je vous lis l'extrait: la France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine et prendre sa revanche. L'Allemagne, depuis Bismarck, veut anéantir la France et elle prétend à des extensions de territoire à l'Est, ce qui inquiète la Russie. Le Royaume-Uni, en revanche, s'inquiète des ambitions navales et coloniales de l'Allemagne. La Russie lorgne un débouché par le Bosphore sur la Méditerranée, ce qui la met en rivalité avec la Turquie, elle-même en relation commerciale étroite avec l'Allemagne. L'Italie revendique plusieurs territoires sur l'Adriatique appartenant à l'Autriche-Hongrie. En bref, l'Europe est une poudrière qu'une mèche, l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche par un étudiant serbe, suffit à faire exploser. Car l'Autriche est alliée de l'Allemagne, la Serbie est alliée de la Russie, qui est elle-même alliée de la France, qui est alliée de l'Angleterre. En gros, un vrai jeu de domino. Mais les stratèges des deux camps pensent que la guerre sera courte, 3 à 6 mois, pas plus.
Pas évident à comprendre quand on est au collège, c'est au programme, je crois.
Tout à fait, ouais, c'est au programme, notamment en 3e. Alors, si on devait synthétiser, du coup, il faut comprendre qu'on a un jeu d'alliance qui se met en branle lorsqu'il y a l'assassinat de l'archiduc en juin 14. Pour faire simple, nous avons la triple entente d'un côté avec France, Royaume-Uni et Russie, et de l'autre côté, nous avons la triple alliance avec Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. Le déclencheur, c'est l'assassinat, je vous l'ai dit, et du coup, la guerre peut commencer.
Ça, oui. Moi, je suis assez bouleversée là-dessus, je ne suis pas tout à fait avec toi, parce que c'est une question qui me touche énormément, je vous. Alors, j'ai du mal. Du coup, un front stabilisé à Verdun pendant 10 mois en 1916, c'est quelque chose de très marquant dans l'histoire de la Première Guerre mondiale et l'histoire aussi de notre département.
Tout à fait, c'est de notre région, de notre département, effectivement. Alors, il y a trois grandes phases, dans la guerre. Il y a la première phase qui est la guerre de mouvement, les Allemands avancent. Ensuite, nous arrivons à les arrêter un peu avant qu'ils arrivent dans la région parisienne. Nous les arrêtons à Verdun. Je rappelle qu'à cette époque, si on arrive à conquérir la capitale d'un pays, c'est terminé, hein. Et donc, on réussit à les stopper à Verdun. Le front se stabilise pendant 10 mois, effectivement, 1916, comme tu l'as dit. Et ensuite, l'Allemagne recule. Alors, elle recule quand même avec village détruit, etc., etc. Hein, faut bien s'imaginer. Alors, j'avais fait le calcul avec mes élèves. On parle de milliers, voire de millions de tonnes d'obus qui tombent sur Verdun. C'est catastrophique, hein.
Et apparemment, on appelle ça le commerce de la mort.
Tout à fait. Voilà, on appelle ça le commerce de la mort, et ça ira extrêmement loin, dans le sens où, si on passe rapidement dans la chronologie, en 1918, nous avons des familles qui veulent récupérer les soldats morts. Vous êtes dans une famille dans le sud de la France ou autre, votre père, grand-père ou autre est forcément passé par Verdun, et s'il y est mort, vous voulez récupérer son corps. Et là, on va assister à un phénomène effrayant, qui s'appelle la démobilisation des morts. Tout comme on démobilise à la fin de la guerre les soldats vivants, eh bien, en 1920-1921, on va avoir la démobilisation des morts avec un véritable commerce de la mort. Le principe est simple. Vous voulez récupérer la dépouille de votre père, de votre mari, de votre fils. Cette dépouille a été enterrée parfois à la va-vite dans le secteur de Verdun ou ailleurs. Et des marchands de la mort vont vous proposer leurs services. Le concept est extrêmement simple. On déterre de nuit le cadavre, on le réenterre dans un nouveau cercueil avec une simple pellicule de terre de manière à pouvoir l'enlever un tout petit peu plus tard dès que la famille est prête, notamment financièrement, parce que vous imaginez bien que ces gens-là ne faisaient pas ça gratuitement et ils faisaient ça en toute illégalité. Et ensuite, on va transporter illégalement le corps, si corps il reste, bien sûr, malheureusement, parce que la Première Guerre mondiale, en tant que guerre totale, est un très bon exemple de guerre technologique. Parfois, des corps entiers vont disparaître.
Alors ça, c'est assez exceptionnel. Je ne l'avais pas entendu quand j'étais au collège ni au lycée, la guerre technologique.
Oui, on parle de guerre totale, donc de guerre technologique. Pourquoi ? Parce que notre armement, notre manière de penser la guerre évolue totalement. Si on prend quelques illustrations, bah vous avez déjà les premiers lance-flammes. On peut citer notamment pour ces lance-flammes l'usage qui sera fait de cette arme sur la butte de Vaucois en Meuse. Et pour l'anecdote qui ne manque pas de saveur, si j'ose dire, c'est les premiers soldats français qui vont utiliser ça, vont le faire malgré le vent, donc la flamme va se retourner et ils périront à cause du lance-flamme. Comme quoi, c'est assez fort. Hein.
Véridique ?
C'est véridique. Tout à fait, il y a une plaque commémorative à Vaucois. Vous avez également les premiers gaz toxiques. Alors, gaz moutarde, gaz asphyxiant, etc. Vous savez, quand on parle de gaz sarin, notamment avec les armes non conventionnelles qui ont été utilisées en Syrie ces dernières années, on n'a rien inventé. Hein. Les premiers gaz toxiques, c'est la Première Guerre mondiale. Hein. C'est également ensuite les tanks, bien sûr, les premiers chars Renault, etc. Les avions, bien sûr, aussi. La Lorraine a quelques noms illustres de pilotes, d'as des as, comme on disait à l'époque. Alors, ça sera un Fonck ou bien un René Dorme. Et c'est aussi les gilets pare-balles qui vont être créés lors de la Première Guerre mondiale. C'est extrêmement fort. Quand on voit les images, on est très impressionné. Les canons de 75, la grosse Bertha, les obus qui tombent sur Verdun et aux alentours, dont on retrouve encore aujourd'hui des traces. Hein. Je suis allé visiter avec mes élèves la butte de Vaucois il y a quelques temps, il y a peut-être trois semaines à moi. Le guide nous racontait qu'ils avaient retrouvé un véritable obus qui faisait quand même 1,50 m de haut, qui n'avait pas explosé, qui était intact. Voilà.
Mais ça arrive régulièrement.
Tout à fait. Je
le vois régulièrement, c'est vrai, tout à fait. Et par contre, ça fait peur. Maintenant, oui. On a peur d'aller en Meuse maintenant.
Oui, tout à fait. Alors, ça va même tellement loin que l'État a racheté un certain nombre de parcelles forestières et les a déclarées totalement inconstructibles, définitivement. Parce que, selon ce même guide que nous avons rencontré, s'il fallait vraiment tout déminer, déminer dans le sens enlever toutes les munitions encore présentes sur place qui présentent un risque. À mon avis, il y en a encore pour 500 ans. Hein. Donc, vous imaginez bien que quand on creusait des tranchées avec des excavateurs de tranchées, un vrai matériel de pointe, et quand on a des kilomètres de souterrain comme à la butte de Vaucois, où on descend sur 110 mètres de profondeur et sur 25 kilomètres de réseau, il y a un petit peu d'explosifs à enlever.
Ma dernière question pour cette chronique serait, comment se souvenir de cette période noire de l'histoire de France ?
Oui, c'est une très bonne question. Et ça amène à un débat plus vaste. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est partagé entre histoire et mémoire. On est partagé sur le devenir de cette guerre, sur la commémoration, pardon, dans notre quotidien. Lors du centenaire, en 2014, on s'est dit, il y a une réflexion au sein de l'État, on s'est dit, est-ce que ça vaut encore le coup, vu que tout le monde est mort, il n'y a plus aucun poilu encore existant aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Moi, ce débat, il me semble intéressant, mais mal compris. Il ne s'agit pas de se demander s'il faut ou non encore commémorer. Il s'agit de se demander pourquoi est-ce que les Français se désintéressent. Et moi, je pense que s'ils se désintéressent de ça, c'est parce qu'ils connaissent mal leur histoire personnelle. Et je vous donne un exemple concret pour ça, qui n'est pas lié à la Première Guerre mondiale, mais qui est lié à la Seconde. J'ai eu la douleur de perdre mon grand-père il y a quelques semaines de ça, et lorsque j'ai discuté avec certains membres de ma famille, je me suis aperçu, et je l'ignorais totalement, que mon arrière-grand-père, donc, qui est mort dans les années 80, avait été envoyé en camp de concentration. Mais ça, personne n'en parlait dans la famille. Alors imaginez, là je vous parle de la Seconde Guerre mondiale, imaginez quand c'est la Première Guerre mondiale, quand vous avez un arrière-arrière-grand-père ou un arrière-grand-oncle qui a fait la guerre et qui n'en est pas revenu, eh bien son souvenir, il n'est pas existant du tout. Donc, le problème, c'est pas tant le problème de la commémoration que le problème du devoir de mémoire qui n'est pas connu. Alors, j'ai envie de vous conseiller un site internet Le prof 3.0, n'est-ce pas que je suis, va vous conseiller un site internet. Le ministère de la Défense a fait un superbe travail de recensement des archives et il a créé un site internet qui s'appelle Mémoire des Hommes. Alors, c'est mémoiredeshommes.fr, c'est très simple, vous tapez ça dans Google. Et c'est hyper intéressant parce que vous pouvez faire une recherche avec votre nom, vous rentrez directement le nom de votre famille, et ça va vous donner l'intégralité de la liste des soldats morts, j'insiste sur le mot mort, au combat pendant toutes les guerres du XXe siècle. Donc, qu'il s'agisse de la première, de la seconde, de la guerre d'Indochine, d'Algérie, etc., etc., tout est recensé. Et c'est hyper intéressant parce que je l'ai fait plusieurs fois avec mes élèves et à chaque fois, ils se sont dit « C'est marrant, monsieur, il y a un truc, il y a tel soldat, il est mort, mais il est né dans tel village, alors c'est le village de ma grand-mère, il porte le même nom, c'est quand même incroyable. » Et puis par des recoupements, etc., etc., on arrive à découvrir que « Ah, c'est de la famille. » Et ça, ça arrive extrêmement fréquemment.
Donc ça, c'est un site internet que je vous partagerai sur la page Facebook juste après la chronique. Vous pourrez voir, vous pourrez en apprendre plus sur votre famille.
Oui, Mémoire des Hommes. Il y a également ensuite une deuxième étape qui est faisable, hein, toujours dans cette idée de devoir de mémoire, c'est d'écrire au bureau des archives militaires de Pau. C'est la caserne Bernadotte qui va vous donner ce qu'on appelle la fiche signalétique de service d'un de vos ancêtres, si vous avez son nom, que vous avez tiré du site Mémoire des Hommes. Et vous en apprendrez sur qu'est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a été décoré, etc., comment il est mort, où est-ce qu'il est enterré. Et parfois même, vous tomberez sur le numéro individuel, ce qu'on appelle le carré, c'est-à-dire le lieu dans le cimetière où il est enterré. Et parfois, on apprend et on se dit, si j'avais deviné ça, c'est pas une évidence, quoi.
Il est 16h53, on en arrive maintenant à notre coin lecture, et puis cette fois-ci aussi, le petit coin rando.
Voilà, alors je dis toujours à ma femme qui est une fervente partisane de la randonnée, je lui dis toujours, ça serait quand même bien que je puisse parler dans ma chronique de rando. Elle m'a dit, là c'est l'occasion ou jamais, donc voilà, merci madame, je vais pouvoir parler grâce à ma femme du coin rando. Donc déjà avant de parler coin rando, beaucoup de films, de livres existent sur la Première Guerre mondiale, vous l'avez vu. Moi ce qui m'intéresse c'est plus les histoires individuelles, mais on peut citer en film... Au revoir là-haut, que tu avais évoqué, me semble, dans une chronique cinéma, qui évoque très bien la question du retour d'une population combattante, de ces fameuses gueules cassées qui sont revenues du front, mais parfois avec un membre en moins, et pour qui la réinsertion en société n'est pas évidente. C'est un film qui est tiré de l'ouvrage de Lemaître, et il y a eu une BD également. Je vous en dirai sans doute à l'occasion en plus, puisque j'ai la chance et l'opportunité d'aller demain au cinéma avec mes élèves le voir. C'est également...
Les avantages.
N'est-ce pas? C'est également le film qui commence à prendre un tout petit peu d'âge, mais qui est tout aussi, qui pour moi n'a pas pris une ride. C'est le film Joyeux Noël.
Il me touche. Je l'avais étudié au collège.
C'est quand même un très très beau film, un film bouleversant d'humanité, d'espoir et surtout de réconciliation. Mais également, il ne m'a pas laissé indifférent et je l'ai trouvé formidable. Pour la partie livre, on peut citer bien sûr Parole de Poilu, qui est un livre extrêmement classique, qui donne un éclairage humain à cette guerre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cet éclairage humain, c'est de matérialiser des visages derrière un grand nom de guerre. Et cette guerre, du coup, nous paraît pas si lointaine que ça quand on le lit. Et ensuite, pour allier randonnée et histoire, je vous conseille le guide Michelin qui s'appelle Alsace-Moselle, les combats dans les Vosges, les champs de bataille. Alors, c'est une réédition qui a 100 ans d'âge, il me semble quand même, et en fait qui donne par région, et donc là pour l'Alsace-Moselle, les combats dans les Vosges, qui donne de précieuses indications sur les lieux de bataille avec des photos de l'époque, et qui permet de faire un élément qui est extrêmement fort à mon sens, parce que ça permet de s'approprier les lieux. Et je pense que c'est là, et c'est comme cela que fonctionne l'histoire. Si on ne s'approprie pas les histoires, on ne peut pas comprendre l'histoire avec un grand H. Et ça, je pense que c'est quelque chose de formidable.
Merci beaucoup, Olivier.
De rien. J'en profite également juste pour vous donner en quelques secondes l'idée pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ça sera une émission un petit peu mystère. Je ne veux pas vous dévoiler le sujet, mais même toi, tu ne le sais pas, mais il faut que je vous explique pourquoi. C'est lorsque j'ai fait mes deux premières chroniques, ma femme m'a dit « Oh, tu comprends, tu fais quand même beaucoup d'histoires religieuses, entre Luther, entre le pasteur Paul Brenner, ça fait quand même beaucoup d'histoires religieuses. » Je dis « D'accord, On va changer alors, on va faire un petit peu plus d'histoire entre guillemets classique. Donc la semaine prochaine, vous verrez, c'est une surprise.
Super, à la semaine prochaine, on sera tous présents de 16h30 à 17h le mercredi pour les 5 minutes d'histoire.
À la semaine prochaine.
Il est 16h57, on s'écoute une musique, Tina Arena Overlord, et puis on continue la deuxième partie de l'Afterwork.